rendez-vous du Mondial du Bâtiment, le grand dossier du Mondial du Bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset.
Tous les mois, nous organisons donc un grand débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. Et aujourd'hui, la question est quelle perspective pour la reprise et la réutilisation dans le secteur du bâtiment? On va parler évidemment d'économie circulaire, également de réemploi. Pour en parler en studio, Valérie Lebon, bonjour.
Bonjour.
Qui est vice-présidente de l'AIMCC, Association des industries de produits de construction. Quelques mots complémentaires pour vous présenter?
Oui, donc effectivement, je représente l'AIMCC, qui est une association qui regroupe des organisations professionnelles. De fabricants de produits rentrant dans la production dans la construction, à peu près 7000 entreprises, plus de 450 000 collaborateurs et plus de 45 milliards de chiffre d'affaires en France, donc des acteurs majeurs du bâtiment. Je suis aussi salariée d'entreprise dans la construction depuis plus de 20 ans, donc le second œuvre est un peu mon domaine de prédilection. Donc voilà, je suis ravie d'être là pour discuter de ces thématiques importantes, comme l'a souligné d'ailleurs Monsieur Garnier. La transition écologique est un sujet majeur et pas vu forcément comme une contrainte par les industriels, et on va en parler aujourd'hui.
On va en parler justement. Alors on en a déjà beaucoup parlé depuis le début de cette émission. On le sait, la reprise des déchets dans le secteur du bâtiment devra être opérationnel en janvier 2022 avec l'entrée en vigueur d'une REP, et ça dans le cadre de la fameuse loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. On s'est dit aussi que c'était important de mettre en avant parfois certains secteurs comme les fluides frigorigènes ou encore parfois du côté du chauffage, de la plomberie, des acteurs qui n'ont pas attendu, j'allais dire, que se mette en place aussi une REP pour s'organiser. C'est pourquoi on est ravis d'être en ligne avec Laurent Guégan. Bonjour. Vous êtes bien
bonjour
avec
à
nous.
Tous, bonjour. Merci de votre invitation.
Qui est présidente de l'ADC3R, c'est bien ça? Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Oui, alors l'ADC3R, c'est l'association des distributeurs récupérateurs de réfrigérants et conditionneurs, pardon, j'ai oublié le C. Donc, on représente à peu près 85-90% des fluides frigorigènes qui sont mis sur le marché en vrac. Maintenant, on représente aussi le marché de la récupération de ces fluides qui s'est organisé déjà depuis plus de 20 ans, puisque la première convention a été signée en 1993.
Exactement, et vous allez nous en parler. Et vous allez nous en parler en détail dans un instant. Et puis le troisième invité ce matin est Lionel Gossel. Bonjour.
Bonjour.
Qui est président d'honneur. Alors, c'est pas uniquement votre titre, mais vous êtes président d'honneur des éco-opérateurs. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots là encore et vous présenter dans votre activité?
Donc moi, je suis installateur chauffage plomberie. J'ai un groupe de 300 personnes et on a créé une société indépendante où on a rendu actionnaires les employés du groupe, les CDI. Et cette société s'appelle les éco-opérateurs. Donc voilà, l'idée c'était de s'occuper des déchets qu'on génère toute l'année sur nos chantiers. Donc de trouver des solutions pour le réemploi et le tri des déchets. Donc on a une société avec 170 actionnaires et je suis le président d'honneur de cette société.
Alors on va en parler là encore en détail de ce que vous avez mis en place. Peut-être d'abord parler globalement des enjeux. On l'a déjà évoqué, il y a quand même des enjeux de matière aussi. Il faut aller vite et on va aussi en parler avec nos acteurs, Valérie Lebon.
Oui, tout à fait. Les enjeux de matière, on connaît le contexte actuel et on connaît le contexte général de pénurie actuelle mais aussi future. Donc bien évidemment, les industriels n'ont pas attendu, ils se sont aussi organisés pour cette reprise, on va en parler, ou aussi un peu le réemploi, mais on verra, c'est pas si simple pour le réemploi.
Mais parce que là, on emploie les mots, alors c'est vrai qu'on s'emmène parfois un peu les pinceaux, il y a reprise, réutilisation, réemploi, c'est vrai que ça peut être compliqué de l'extérieur.
Exactement. Ouais. Bon, déjà, la reprise, il y a deux aspects. Il y a la reprise, effectivement, à partir du chantier, par exemple les industriels, et ça s'est fait depuis de nombreuses années, et ça dans tous les domaines, que ce soit le revêtement de sol que je connais bien, ou la plaque de plâtre également, mais aussi les autres activités. Maintenant, il y a aussi la reprise du chantier vers, et donc l'acheminement vers les sites de collecte et de retraitement, et d'organiser cette filière. Et là, on rentre dans bien évidemment le cœur du sujet de la REP, avec la mise en place des éco-organismes qui vont mettre en place tout ce maillage, ces points de collecte, pour pouvoir organiser cette reprise et éviter. Alors, déjà, les dépôts sauvages, ça c'est un des enjeux.
Oui, on l'a entendu, la question des déchets.
Mais aussi aussi de récupérer un maximum de cette matière pour pouvoir entrer dans cette économie circulaire et pouvoir réutiliser la matière qui, encore une fois, éviter de consommer à outrance la matière, éviter de consommer les matières fossiles, on en parlait, et aussi, mais pour ça, ça demande des investissements chez les industriels, bien évidemment, parce qu'on ne réutilise pas parfois le matériau brut sorti de chantier. Il y a ceux qui sont post-installation, qui sont, on va dire, plutôt sains. Et ça, les industriels savent faire et le réinjecter dans leur process de fabrication. Il y a aussi ceux qui ont été utilisés post-utilisation et qui peuvent être, on va dire, comme on dit dans le jargon, un peu souillés par les produits de mise en œuvre. Et là, il faut trouver des filières pour pouvoir les récupérer, les séparer. Et aussi, on va dire, il y a aussi la qualité du matériau. Il y a des matériaux, on est sur le bâtiment dans les cycles longs, des matériaux qui ont été installés il y a 10-15 ans, quid de leur utilisation actuel et futur, en termes de formulation, en termes de capacité technique. Et là, on va aussi reparler du réemploi en disant, on ne vend pas de la matière, on vend des solutions pour des usages dans des bâtiments. Il y a tout cet enjeu aussi de réutilisation, oui, mais dans des conditions garanties.
Exactement, des garanties. Il faut être sûr de la technicité du produit, qu'il puisse encore être, s'il a déjà été utilisé pendant 10 ans ou 15 ans, est-ce qu'il va encore pouvoir durer longtemps? Il y a plein de questions qui
sera garant de ça? On connaît la notion d'assurance dans le bâtiment est importante et c'est normal. Donc oui, tout à fait.
Alors, on va voir un peu concrètement aussi comment, justement, des filières avec nos deux autres acteurs ont pu déjà s'engager en la matière, c'est le cas de le dire. Laurent Guégan, vous l'avez dit, 1993, j'allais dire, à l'époque, on parlait pas d'économie circulaire sur tous ces sujets-là. Et d'ailleurs, la France est un modèle mondial sur la gestion des fluides frigorigènes. Il faut le dire, parfois, il faut se féliciter, faire des petits cocoricos.
Absolument, il faut le dire. Donc effectivement, vous avez tous entendu parler des CFC qui avaient un impact sur la couche d'ozone. Et donc avant les mises en place de réglementations, que ce soit européenne ou mondiale, même s'il y avait certains protocoles qui avaient été signés en 87, dès 1989, les distributeurs ont commencé à mettre en place des emballages de récupération pour permettre aux installateurs de collecter les déchets de fluides frigorigènes qu'ils récoltaient. Et en 93, on a mis en place un accord volontaire qui était fait avec l'ensemble des acteurs de la filière, c'est-à-dire de l'utilisateur final, les grands utilisateurs finaux, les installateurs, les distributeurs, les producteurs, mais également nos autorités, puisque la ministre de l'époque ministre de l'Environnement était signataire de
Ségolène Royal.
Ségolène Royal, absolument, était signataire de cette convention qui a permis la mise en place de cette filière récupération qui aujourd'hui fonctionne très bien, puisqu'on récupère à peu près 70% de ce qui est récupérable. Alors, pourquoi que 70%?
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, oui. On peut se dire qu'on peut toujours pousser beaucoup plus loin.
Mais comme toute courbe, vous savez que les derniers pourcentages sont les plus difficiles à atteindre. Après, pourquoi 70%? Parce que il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, comme malheureusement des fuites accidentelles ou des collectes qui sont un petit peu anarchiques dans certains cas, mais ça reste des choses marginales. Donc on a mis en place une filière avec les distributeurs en point central, puisque le fluide frigorigène avait deux sources d'entrée sur le territoire français. D'une part, les fluides frigorigènes en vrac pour la partie de tout ce qui est chaîne du froid, les supermarchés, le commerce de proximité, la santé, etc. Mais également tout ce qui était ce qu'on va appeler les équipements préchargés, qui sont, dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, qui est, par exemple, les pompes à chaleur. Et donc, c'est vraiment ces points d'entrée avaient deux axes fixes pour la mise en œuvre et pour la collecte, qui étaient les installateurs, frigoristes et climaticiens notamment, et les distributeurs lorsqu'ils vendaient des fluides frigorigènes, avaient la possibilité de les collecter. Donc ces distributeurs se sont organisés pour retraiter et régénérer les fluides frigorigènes ou les détruire lorsqu'il n'y avait pas de possibilité de remise sur le marché pour des différentes raisons, que ce soit pour des problématiques réglementaires ou que ce soit pour des problématiques d'impureté que l'on pouvait trouver dans ces gaz.
Alors si je vous écoute bien, vous avez vraiment créé une filière et vous avez pu réussir à trouver un accord sur toute la chaîne du froid en vous autant gérant.
Tout à fait. Chaque distributeur s'autogère avec ses clients. Il y a, après, la réglementation française est venue acter cet accord volontaire, puisque en 87, les modalités de, en 2007, les modalités de la, de l'accord de 1993 a été acté dans le code de l'environnement. Et aujourd'hui, les distributeurs ont l'obligation de reprendre la concurrence de ce qu'ils ont mis sur le marché l'année précédente. Auprès de leurs clients.
Donc
il y a eu une fees qui a été mise sur le produit neuf de façon à payer le traitement des produits de l'année en cours.
D'accord, c'est comme une éco-participation, c'est ça?
Si on veut, c'est ce qui a servi de modèle, sauver, effectivement, voilà, des trois œufs après.
Comme quoi, vous avez ouvert la voie, finalement, en créant tout ça. Est-ce que vous avez besoin aussi, au début, peut-être d'être accompagné? Je crois que l'ADEME aussi était à vos côtés dans cette démarche-là. C'est important aussi quand on se lance comme ça dans une structuration de filière?
Alors, l'ADEME était à nos côtés dans le monitoring, puisque il y avait l'observatoire, enfin, il y a toujours d'ailleurs, même si depuis ces dernières années, on est un peu plus, il y a eu un petit temps mort, on va dire, sur les études de l'ADEME, mais effectivement, ils ont sorti un observatoire des fluides frigorigènes avec des mesures d'une part de la banque, d'autre part de ce qui est récupéré, de façon à pouvoir monitorer et pouvoir évaluer ce genre de choses. Parallèlement à ça, au niveau de la DC3R, nous avons lancé une étude avec la chaire économie du climat que nous allons remettre à jour cette année pour évaluer les tonnes équivalent CO2 que nous avions fait économiser entre 93 et 2013. Et la chaire économie du climat a évalué à 45 millions de tonnes équivalent CO2 les quantités, les émissions évitées. Et potentiellement sur la lignée des bonnes pratiques qui sont faites par les frigoristes et les climaticiens, c'est 68 millions de tonnes qui seront économisées d'ici l'horizon 2030, entre 2016 et 2030.
Alors, je vous ferai réagir tout à l'heure encore sur ces enjeux-là, mais je vais me tourner, si je puis dire, vers Lionel Gossel, pour qui, j'allais dire, quand on parle de réemploi, vous, ça fait longtemps que vous connaissez ça dans votre métier.
Oui. Alors longtemps, on va dire longtemps, parce que finalement le réemploi, on le réinvente pas. C'est moi, mon papa qui a été chauffagiste, et ben tout ce qu'il pouvait garder pour pouvoir réutiliser en tant qu'artisan, je dis bien, c'était une toute petite structure. Il faisait du réemploi avec des raccords qu'il avait récupéré les tongs et des bouts de plastique qu'il avait démontés, parce que ben à l'époque c'était comme ça, on jetait pas. Et je pense qu'il faut que on a perdu un peu ces bonnes manières, on va dire, de garder, de réfléchir un peu avant de faire. Et moi, ça m'a toujours resté ancré en moi, et ça m'embête toujours de jeter. Donc on fait attention, et on s'est rendu compte que finalement, en faisant attention, eh ben on arrive à gagner de l'argent. On arrive à gagner de l'argent parce que les matériaux sont chers, très chers, et finalement un siphon plastique, ça peut être soit réutilisé ou soit revendu à un particulier, à un artisan, ou voilà. Donc là, un peu l'idée de base, c'est de pas jeter et de réfléchir avant de jeter. Le laiton, ça coûte cher, le cuivre, ça coûte cher. Un WC qu'on démonte, qui est quasiment neuf, qui a moins d'un an, pourquoi le jeter quand on fait des gros chantiers de réhabilitation? Donc on fait attention au moment du démontage pour qu'il soit qu'on puisse le réutiliser éventuellement. Et grâce à ça, on a proposé sur des marchés d'entretien avec des bailleurs sociaux des tarifs au niveau de la maintenance et de l'entretien, des tarifs d'occasion. Et à ma grande surprise, c'est que ça a été accepté. C'est-à-dire qu'on arrive à faire de l'entretien avec des matériaux d'occasion dans nos métiers de plomberie ou de chauffage. Voilà. Donc, il y a un client qui m'a posé la question. Il me dit, ouais, mais Lionel, le WC, tu vas pas mettre un WC d'occasion. J'ai dit, quand vous changez de locataire, ça devient un WC d'occasion. Donc, il n'y a pas de raison. Le tout, c'est, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est avoir une garantie derrière, qu'il soit bien posé, éventuellement nettoyé, si bien sûr nettoyé, désinfecté s'il faut. Voilà, il y a toute une démarche à avoir, mais il y a une grosse économie au bout. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est de la maintenance, c'est que faut savoir que les charges locatives sont indexées par rapport aux dépenses de maintenance. Donc tout le monde est gagnant, c'est-à-dire que jusqu'au bout le locataire sa charge va diminuer parce que le coût de la maintenance va diminuer aussi. Mmh. Donc voilà. Mais seul ça marche pas, donc il faut d'où on a créé les éco-opérateurs, c'est un travail de fourmi.
Voilà, ce sont des ouvriers qui récupèrent du matériel de chauffage, de plomberie, des lavabos, des éviers, des chaudières, il peut tout y avoir évidemment
derrière tout ça. Ouais. Mmh. Ouais, c'est ça, des mécanismes de WC. Donc on a mis en place tout un système grâce au numérique, parce que pareil, donc on a une start-up aussi dans notre groupe qui a développé un logiciel d'intervention. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque ouvrier a la possibilité de dire, là, je vais démonter un lavabo qui a moins d'un an. Et donc on a une traçabilité qui se met en place, un état des lieux qui est fait, le banc d'essai finalement, il est fait sur place. Et limite, on peut même quasiment déjà le vendre avant de l'avoir démonté, quoi. Limite. Mais ça marche grâce au numérique. Mmh. Donc il y a tout cette action numérique, occasion, réseaux sociaux, éducation, bien sûr, savoir-faire. Quand tu démontes, au lieu de donner un coup de masse pour démonter ton lavabo, tu dévisses les deux boulons et puis tu le démontes proprement pour pas le casser, quoi. Mmh. Voilà.
Et alors tout à l'heure, vous parliez de proposer des matériaux d'occasion, par exemple, parce que vous travaillez avec des bailleurs sociaux, c'est ça?
Alors, moi, il y a plusieurs filières de revente, c'est-à-dire que nous, dans notre groupe, on a des gros contrats d'entretien avec les bailleurs sociaux, donc des gros acteurs locaux, où nous, on fait le quart nord-est, on va de Strasbourg à Metz, sur nos contrats qu'on a de 4 ans ou de maintenance, on propose un deuxième tarif d'occasion. Donc ça leur permet d'acheter moins cher et on rentre vraiment dans le réemploi. Et des fois, ça vaut le coup de poser l'occasion si l'immeuble est rénové un an après ou deux ans après. Pourquoi poser un lavabo qui va être cassé dans un an ou changé dans un an parce qu'il y a une grosse réhabilitation générale de l'immeuble où là, bien sûr, tous les éléments sont neufs. C'est comme des tableaux électriques. Des fois, il y a des tableaux électriques qui ont été changés avant la réhabilitation générale. On les garde, on démonte, on les garde et puis ça nous permet de faire la maintenance avec des tableaux électriques. Un disjoncteur, c'est un disjoncteur. Pourquoi le jeter? Et voilà. Et on est venu un peu des mauvais élèves. C'est-à-dire que on réfléchit pas avant de travailler. C'était l'abondance des choses, l'abondance des matériaux. Et je pense que moi, là, je mets ma casquette d'installateur. On a une rééducation à avoir en tant qu'installateur. C'est comme les chutes. Réfléchir pour utiliser moins de avoir moins de chutes, c'est important. Mmh. Voilà. Or maintenant, on a des outils pour le faire. Je pense que le BIM, ça va être quelque chose d'important. Ça va nous permettre de rentrer dans du détail pour avoir moins de chutes. Ça va nous permettre aussi d'avoir une traçabilité des matériaux. Je crois beaucoup au BIM, mais je crois beaucoup à la préfabrication aussi.
C'est-à-dire que plus qu'on va travailler. C'est un sujet dont on parle régulièrement dans cette émission. On va encore en parler en voyant le baromètre hors site. Donc, vous voyez.
Faut savoir que nous, on a deux gros ateliers de préfabrication et on préfabrique tout. C'est-à-dire que le moindre évier, la robinet est montée chez nous, la moindre soudure est faite chez nous, le chanvrage, le robinet est serré chez nous, ce qui nous permet de gagner du temps. Déjà aussi, si on peut parler d'écologie, on est moins sur la route parce que moins d'ouvriers sur le chantier vu qu'on fait plus en atelier, moins on est plus en sécurité et surtout moins de déchets, c'est-à-dire que les déchets sont maîtrisés chez nous dans nos ateliers. Et donc ça nous permet de bien mettre les cartons avec les cartons, de bien mettre le polystyrène, de revendre le carton, chose qui est beaucoup plus complexe sur un chantier où on n'a pas de place, où il n'y a que des bennes, où l'accès est compliqué. Plus qu'on va préfabriquer, plus qu'on va réfléchir, et bien plus qu'on va mieux s'organiser sur nos déchets. Mmh. Et là, on va commencer à gagner de l'argent, parce qu'il faut savoir que nous, on est passé, avant les éco-opérateurs, on avait un ticket de déchetterie, alors c'était encore, je parle de ça, il y a 3-4 ans, on avait 150 000 euros de déchetterie, et maintenant on gagne de l'argent. C'est-à-dire que grâce au fait de réfléchir, de faire du réemploi, de vendre le carton au carton, de vendre le bois, de vendre, on vend tout, on vend le laiton, le cuivre, on arrive à gagner de l'argent.
Mmh. Et ça aussi, donc c'est ça, important, ce modèle économique. Alors, je pourrais vous faire réagir, mais je vais faire commenter Valérie Lebon, parce que beaucoup de choses ont été dites à travers ces deux témoignages.
Effectivement. Alors, je pense que les initiatives sont bien évidemment excellentes. Mmh. Et je pense qu'on va, de manière générale, à titre individuel, on est aussi tous rentrés dans cette tendance, et les industriels également. Maintenant, il y a des notions, effectivement, dont on a parlé, la traçabilité. Je pense que c'est important, du cycle de vie du produit. Alors, et de pouvoir se dire, effectivement, pour un chantier qui va être en pré-rénovation pendant une certaine durée, d'avoir un matériau d'occasion. Et on reviendra, j'imagine, sur la notion de garantie. Et ce serait intéressant d'avoir la réaction par rapport à ça.
Bien sûr.
Mais aussi la traçabilité, c'est-à-dire d'où vient le produit, comment il a été mis en œuvre. Pour des sanitaires, c'est des choses peut-être, on va dire, assez intuitives et des choses qu'on peut expertiser assez rapidement. Quand il s'agit d'un produit mis en œuvre dans un système, et donc une désinstallation, voir effectivement est-ce que ça touche ou pas, encore une fois, aux fonctions techniques, ça devient un petit peu plus complexe. Mais je pense qu'effectivement...
Si je vous écoute bien, encore comme c'est tout neuf, on a quand même pas mal de flou, et notamment un peu de flou juridique. Au niveau des assurances, c'est pas si simple que ça aussi. Il y a la fameuse couverture décennale aussi dans les bâtiments. Parfois, ça pose problème à certains en se disant bah, est-ce que l'assureur, il va me suivre aussi sur 10 ans si je fais du réemploi. Enfin, il y a plein de questions qui se posent derrière.
Oui, je pense qu'après, il y a les chantiers effectivement professionnels, mais après, il y a toute la partie rénovation sur des chantiers individuels et donc pour les personnes, pour les artisans, où là, si à partir du moment où l'artisan va aussi prendre en charge cette garantie et va s'assurer de la bonne mise en œuvre, là, je pense que c'est effectivement toute une partie du marché qu'on peut adresser assez rapidement, encore une fois, avec certains éléments de la construction, pas tous. On a des initiatives dans le sol, par exemple, et là, même à l'échelle d'un bâtiment rénové, de moquettes, par exemple, qui sont aussi récupérées dans certaines zones non utilisées ou peu utilisées, mais là, c'est pareil. Il faut qu'un organisme tiers puisse évaluer ce sol, ses caractéristiques, et voir dans quelle mesure il peut être.
C'est pour ça que de nouveaux acteurs voient le jour. On voit aussi les acteurs de l'ESS qui sont engagés, l'économie sociale et solidaire aussi, qui peuvent travailler conjointement avec les acteurs du bâtiment.
Après, je pense qu'il y a des initiatives peut-être plus qui, les unes à côté des autres, peuvent aussi faire la différence. Des distributeurs, moi je sais qu'il y a des industriels qui se mettent d'accord avec des associations pour céder des stocks. Des industriels qui vident leurs stocks aussi, parce que c'est aussi la mobilisation financière. Donc, et certaines collections, dont ils n'ont plus usage. Donc oui, il y a cette économie-là qui se met aussi en parallèle. Mais c'est vrai que là, tous les acteurs de la chaîne ont leur rôle à jouer. Des chantiers de démolition, et il y a aussi des organismes. Moi, j'ai découvert des acteurs comme Mobius ou Bellastock, qui sont des organismes qui vont être spécialisés dans le conseil, en réemploi, dans la production de matériaux de construction reconditionnés. Donc, je pense qu'on va dans le bon sens, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de flou, comme vous disiez, et notamment sur la partie, on va dire, grand chantier et chantier, en termes de... Bah, les assureurs, ils travaillent, mais il y a encore beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Il faut être prudent sur comment, encore une fois, on met ça en place.
Alors, Laurent Guégan, est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit ? Est-ce que vous aussi, de la même façon que disait Lionel Gossel, ça vous a permis de gagner de l'argent, cette démarche?
Non, c'était au départ, comme c'était quelque chose qui démarrait, il fallait mettre en place des bonnes pratiques. C'est quelque chose on gagnait pas d'argent. c'était quelque chose qui coûtait. Maintenant, on est dans une profession qui est quand même consciente des impacts de ces produits, et l'objet de la profession, je pense qu'on est tous aujourd'hui conscients qu'on a besoin de prendre en charge nos déchets, et c'est vraiment quelque chose qui est important. En revanche, ça a permis de répondre à d'autres problématiques. Alors, j'entendais parler tout à l'heure de la garantie. Effectivement, par rapport à la garantie, au niveau d'un gaz, vu que c'est quelque chose qui est mis en œuvre, lorsque le produit est régénéré sur un site spécialisé sur la régénération des fluides frigorigènes, donc il doit être ICPE, bien entendu, parce que nous sommes considérés comme matière dangereuse. Le produit qui est remis sur le marché après est garanti par le distributeur pour avoir des performances équivalentes à un produit neuf. Excusez-moi.
Je vous en prie.
Donc, oui, on a une garantie, et à ce niveau-là, les constructeurs, on est en relation avec les équipementiers, n'ont absolument aucun souci à réutiliser, enfin, à faire fonctionner leurs équipements avec un fluide régénéré. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, par rapport au gain potentiel, le gain, il a été pour toute la filière, dans le sens où, déjà, on a été très, très tôt considéré comme une filière responsable, mais surtout, on a vu avec les évolutions technologiques des fluides frigorigènes, mais également les évolutions réglementaires, on a été confronté à des pénuries de produits. Et la partie justement de la régénération des fluides frigorigènes a permis de répondre en partie, pas pour tout malheureusement, mais répondre en partie et va encore répondre demain sur justement la disponibilité des produits. Et ça permet aussi de pérenniser des installations existantes qui économiquement ne peuvent pas immédiatement être changées lorsqu'il y a une évolution réglementaire sur des technologies. Donc il y a un gain global de toute façon au niveau de la régénération, même s'il n'y a pas forcément eu un gain financier sur cette partie collecte et traitement.
Et alors avec la nouvelle réglementation, parce que vous l'avez anticipé, hein, ça a été même inclus dans le code de l'environnement, vous le disiez à travers votre démarche, est-ce que la REP bâtiment change des choses pour vous, va changer des choses ?
Alors à notre niveau, non, ça ne va pas changer, à l'exception d'une chose, c'est qu'il y a donc la dématérialisation des bordures de suivi de déchets qui a lieu officiellement à partir du 1er janvier 2022, même si on a eu une information avant-hier comme quoi il y avait un petit décalage.
Par rapport au 1er janvier, vous voulez dire, on n'est pas sûr que ce soit le 1er janvier ?
Alors, il y a une tolérance pour tout ce qui est bordereau de suivi, enfin tout ce qui est déchets dangereux génériques, qui ont un bordereau générique. Il y a une tolérance de 6 mois jusqu'au 1er juillet 2022. Et pour ce qui est des fluides frigorigènes, l'obligation démarre au 1er juillet 2022 avec une tolérance de 6 mois jusqu'au 1er janvier 2023.
D'accord.
L'information qu'il y a eu il y a 2 jours. Alors, ça va changer par rapport à cette dématérialisation, qui est une très bonne chose au niveau de la traçabilité. Il y a encore beaucoup de choses à voir en termes pratiques pour les utilisateurs, notamment pour les techniciens, que ce soit les techniciens qui vont faire la récupération ou que ce soit les personnes qui vont être en bout de chaîne lorsque les camions arrivent avec des camions complets avec plus de 1000 contenants de sources différentes pour identifier. Il y a encore pas mal de petites choses à valider et à harmoniser. Mais il est clair que cette dématérialisation pour améliorer la traçabilité, on le voit d'un bon œil.
Alors Lionel Gossel aussi, de la même façon, peut-être réagir à tout ce qu'on a dit. On a parlé de traçabilité, on a parlé de garantie, hein, vous l'avez aussi déjà évoqué en parlant de votre démarche tout à l'heure.
Ouais, donc oui, concernant la garantie, j'écoute, hein, effectivement, il y a une garantie, mais il faut savoir qu'en France, il y a des gens, ils n'ont pas d'eau chaude, parce qu'ils ne peuvent pas se payer un ballon neuf. Donc c'est ça aussi qu'il faut penser, c'est-à-dire que l'idée, c'est aussi, quand on démonte un ballon qui a moins d'un an, qui est neuf, parce qu'on change le système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, on peut aussi se permettre de revendre quelque chose d'occasion à des personnes qui ne peuvent pas se payer du neuf parce qu'un ballon ça coûte 250 € et ils n'ont pas forcément les moyens. Donc ils peuvent peut-être mettre 75 ou 100 € mais pas 250.
On parlait de précarité énergétique tout à l'heure, on en parlait de la précarité énergétique et on le voit malheureusement aussi avec la hausse des prix de l'énergie. Malheureusement, de plus en plus de personnes peuvent se trouver en difficulté.
Et je ne vous parle pas des WC ou des mécanismes de WC, il y a des gens autour de nous qui ont leur WC qui est cassé, qui ne peuvent pas le changer. Il faut ouvrir les yeux et en être conscient de ça. Et les artisans, ils arriveront peut-être mieux à valoriser leur main d'œuvre en diminuant le prix des matériaux et leur main d'œuvre sera peut-être mieux valorisée pour pouvoir faire les travaux chez un particulier. Donc voilà. Donc ok, nous la garantie, sur les contrats d'appel d'offres, on a notre assurance, on a notre garantie, notre tarif d'occasion, on a des bancs d'essai sur des matériaux un peu plus complexes comme des chaudières murales ou des ballons ou des choses comme ça. On fait les bancs d'essai, on les nettoie, et là ça nous permet de pouvoir proposer l'occasion. Puis après l'occasion c'est aussi pratique pour l'urgence. Des fois, pour éviter de ne pas avoir de chauffage, le fait de mettre une chaudière ou une pièce d'une chaudière d'occasion, ça évite d'acheter une plaquette, de commander une plaquette électronique qui coûte très très cher déjà, mais d'avoir la plaquette électronique d'occasion. Voilà. Mais bien sûr que nous, derrière, on fait attention à ces niveaux de garantie. Il y a d'autres paramètres importants, il y a le paramètre amiante. qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier. Il faut aussi bien faire attention à ça. Il y a les, on peut pas démonter si le sol est amianté. Il faut faire attention à pas revendre et faire attention à tous ces petits paramètres qui peuvent devenir dangereux pour la personne qui va réutiliser les choses d'occasion. Voilà, donc
avec vous, du pragmatisme finalement. Là, on est en train de parler aussi de traçabilité,
vous savez, nous. Ouais, mais nous, on est sous le terrain, on est tous les jours, on est devant le trou qu'il faut faire, on est devant les matériaux qu'il faut poser. On fait attention à la garantie, on est assuré pour, on paye beaucoup d'assurance. Ça nous permet de faire des meilleurs prix aussi, puis de gagner peut-être un peu plus sur la manœuvre. Voilà, et mieux payer nos employés aussi et gagner de l'argent autrement. Mais on fait attention à ça. Mais il faut savoir que je pense que les futurs appels d'offres, on va nous obliger à avoir un pourcentage d'occasion. Ouais. Un bout de plastique, un bout de tuyau de PVC de diamètre 40 ou de 50.
Ah, il y a votre chien qui commente, hein. Il y a votre chien qui commente.
Ouais, c'est ça, excusez-moi. un bout de tuyau, c'est inusable. Alors, quand on a une petite descente de lavabo à faire qui fait 30 cm, pourquoi aller acheter un tuyau neuf alors qu'il y en a plein à les déchetteries?
Alors, je crois que Valérie Lebon est prête à commenter ce que vous dites.
Je pense que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Hein, et le point, on va dire, du coup, des industriels, et pas de dire, bien évidemment, il faut être trop vigilant par rapport à ces aspects-là. Il faut être vigilant. Encore une fois, à partir du moment où vous le dites, les assureurs derrière font leur job et ils s'organisent aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions avec eux, bien évidemment, c'est juste que la personne effectivement qui récupère le matériel, qui puisse l'utiliser dans de bonnes conditions et que, et comme vous le disiez, la mise en œuvre soit faite de manière correcte. Vous parliez d'amiante, c'est ce que je veux dire aussi. Il y a des matériaux qui peuvent s'utiliser, on va dire, avec un montage-démontage, avec le savoir-faire d'un artisan, qu'on puisse garantir l'usage. Il y a d'autres types de matériaux où c'est bien plus complexe. Et là, effectivement, on est en train de s'organiser, mais c'est pas aussi simple. Mais bien évidemment, tout le monde, on va dire, va dans ce sens. Et il y a un autre aspect dont on n'a pas encore parlé et qui avait été évoqué, c'est la préfabrication. Oui. C'est-à-dire le fait, les industriels, et je vois... pour bien les connaître, on essaie aussi d'apporter des supports aux clients pour pouvoir aussi optimiser la consommation des matériaux. Les aider, on sait qu'il y a des grandes entreprises qui vont être équipées de bureaux d'études, etc. Il y en a d'autres qui sont plus modestes, avec des services plus modestes, et on va aussi offrir cette possibilité d'optimiser la matière. Et pour les industriels, c'est éviter aussi d'envoyer des camions et des mètres carrés et du poids en transport, etc., qui se retrouvera sur le chantier sous forme de déchets, mais d'optimiser, d'envoyer ce qu'il faut sur le chantier, et aussi pourquoi pas de rentrer dans cette démarche de préfabrication pour optimiser la quantité et aussi la récupérer plus facilement, sans que ce soit dans un chantier qu'on puisse être confronté à la notion de tri. Et encore une fois, là, au niveau de la REP, c'est là où les acteurs, les industriels sont aussi vigilants là-dessus. On milite pour une prise en charge à partir des points de collecte ou la prise en charge sur chantier, mais de chute qu'on maîtrise et avec nos artisans qui puissent nous aider à récupérer ces chutes et qu'on puisse les réutiliser. Maintenant, il y a aussi la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage qui ont leur rôle à jouer sur cette prise en charge, ce tri sur chantier et l'acheminement au point de collecte. Mmh. Et ça va être aussi, encore une fois, on est tous acteurs dans cette chaîne-là, tout le monde va avoir son importance et il faut travailler de concert, que ce soit les industriels, toute la chaîne de valeur, les industriels, les distributeurs, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, et bien évidemment les artisans, et bien évidemment aussi le consommateur final, celui qui va se retrouver à faire de la rénovation chez lui, seul. Il y a aussi toute cette partie je fais moi-même, et comment il va être responsabilisé. Je pense que de ce point de vue-là, c'est peut-être plus facile, parce que la sensibilisation du consommateur, aujourd'hui, ça touche tous les domaines. Oui. Donc, le bâtiment, on sait, c'est quand même des déchets assez volumineux, assez lourds. Aujourd'hui, il y avait cette contrainte de se dire, pour les faire récupérer, ça me coûte beaucoup d'argent. Maintenant, ça va être repris gratuitement. C'est tout l'enjeu des éco-organismes et de la REP qui se met en place. Et vraiment, encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie qu'on doit mettre dans les mois et les années à venir, mais qui sont évidemment nécessaires, et on est tous engagés dans ce dans cette voie.
Alors, vous êtes en train déjà de parler des perspectives, parce que c'était le dernier tour de table que je voulais faire, parce qu'on pose cette question, quelles perspectives pour la reprise, la réutilisation, le réemploi dans le secteur du bâtiment? On va se dire quelque part comment faire aussi pour accélérer le mouvement. On a deux pionniers, là, quelque part, qui ont témoigné. Vous répondriez à cette question de quelle façon, Laurent Guégan? Comment vous les voyez, ces perspectives? Et faire en sorte que les choses s'accélèrent encore plus?
Les perspectives, déjà, on a des bons signaux parce que on voit, alors je vais parler de ce que je connais le plus, qui est le monde du froid et de la climatisation. On voit qu'aujourd'hui, certaines marques commencent à communiquer sur le fait qu'ils utilisent en tant que réfrigérant, des réfrigérants régénérés. Donc, au niveau des perspectives, c'est plutôt une très bonne chose. À ce niveau-là, c'est un bon signal. Ça veut dire que on va sensibiliser à la fois l'installateur, qui l'est déjà beaucoup, mais on va également sensibiliser l'utilisateur. Et ça, c'est un point très très important. Après, il y a un point qui est dont on n'a pas parlé, qui est aussi important, mais votre autre intervenant en a parlé, mais pas forcément le détaillant, dans le sens où la collecte sélective pour permettre la récupération, le réusage, le recyclage, la régénération est très importante. Et effectivement, avoir des points de collecte nombreux et faciles d'accès, et c'est quelque chose.
C'est l'objectif de la REP d'ailleurs, qui réfléchit au maillage territorial et à la proximité aussi de ces points de collecte, hein, évidemment.
Oui, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, au niveau des perspectives, on va aller de plus en plus, de toute façon, sur l'obligation d'utiliser des produits qui sont d'origine recyclée ou régénérée en tout ou partie. De toute façon, parce que c'est ça de produit neuf qui est moins produit, justement.
Lionel Gossel, aussi un commentaire. Vous m'aviez dit aussi que tous ces sujets-là, c'est vraiment aussi un état d'esprit à changer, mais qui est en train de changer.
Oui, je pense que c'est l'état d'esprit. Je pense que je pense qu'au niveau des écoles, des CFA, il faut commencer à expliquer, à éduquer, à donner de la valeur aux choses aussi. C'est-à-dire que souvent, les gens de terrain n'ont pas vraiment aussi cette notion de valeur à l'école, leur expliquer qu'en changeant de geste, on peut gagner de l'argent, on peut moins en dépenser surtout. Donc ouais, c'est toute une éducation. Et maintenant, il y a aussi des facilités. Je reviens avec le côté numérique. On le voit bien avec le Bon Coin, avant d'acheter maintenant, ou avec les vêtements, les jeunes, ils ont plus tendance à aller chercher des vêtements d'occasion que du vêtement neuf. On le voit bien avec les meubles ou les choses comme ça dans le Bon Coin, où on va plutôt aller voir si ça existe d'abord, si on n'a pas quelque chose d'occasion à côté de chez nous avant de l'acheter neuf. Donc voilà, donc dans nos mondes du bâtiment, plomberie, chauffage, électricité, on peut avoir les mêmes démarches grâce au numérique. Nous, on ouvre un magasin d'occasion à Metz. On ouvre 300 mètres carrés à côté d'un gros magasin distributeur de matériaux de chauffage. Donc je pense que l'artisan, peut-être qu'il va venir nous voir pour acheter un mètre de PVC avant d'acheter une barre complète chez notre voisin. Et ça lui coûtera beaucoup moins cher. Et puis je pense que dans le réemploi, il y a le côté conseil qui est important. Donc c'est la communication, le conseil où on peut échanger entre nous, entre artisans, entre entreprises. Et le fait de pouvoir mettre en réseau nos matériaux, on va pouvoir partager. Voilà. Donc on rentre dans un monde moderne où on peut mieux communiquer et je crois que c'est notre avenir. L'avenir, c'est ça, c'est mieux communiquer et échanger notre savoir-faire. Quoi.
Alors Valérie Lebon, en conclusion, que diriez-vous à cette table ronde?
Alors, je voulais aussi peut-être introduire la notion, pour conclure, d'éco-conception. Parce qu'il y a aussi, quand on parle de perspective, faisons en sorte, et les industriels y travaillent depuis de nombreuses années, à concevoir des produits qui soient facilement démontables, séparables. Ça, c'est une première chose. Et deux, travailler avec ceux qui mettent en œuvre, parce que c'est souvent des systèmes, quand on en parlait. Donc travailler de concert pour travailler à cette désinstallation facile. Aussi des bons matériaux, parce que ce qui va être recyclé demain devrait être de bonne qualité. Et ensuite, je finirai par aussi, en tout cas d'un point de vue des industriels, les calendriers, on l'a vu, sont très courts. Les lois arrivent. Alors, parfois, elles ne sont pas encore...
Parfois, elles bousculent un peu.
Elles bousculent. Alors, c'est bien parce qu'il faut accélérer.
On a vu, il y a eu une démarche volontaire. Certains se sont dit aussi, quand la REP est arrivée, attendez, nous, on sait faire, on sait déjà faire. Pourquoi on nous impose, entre guillemets, une démarche? Alors que finalement, on le voit souvent, la réglementation fait beaucoup bouger les lignes, même s'il y a des pionniers.
Exactement. Alors déjà, elle est nécessaire et effectivement, là, elle s'accélère et c'est vertueux. De toute manière, il fallait y aller et je pense que c'était urgent de réagir. Maintenant, il y a un certain nombre de lois qui arrivent les unes après les autres. Mmh. Je pense que le travail de concert entre l'administration, les sénateurs, les décideurs et aussi les artisans sur le terrain, les professionnels, les industriels, est important pour pas que les lois se télescopent aussi, parce qu'on a aussi des lois qui arrivent mais qui déjà questionnent celle qui a été votée il y a quelques mois, parce que à l'échelle d'une industrie, il faut aussi des ressources humaines, financières, pour changer les moyens de production, insérer, on va dire, tous ces moyens de récupération dans les chaînes, les lignes de production, et ce qui veut dire que la compétitivité doit rester aussi importante pour qu'on préserve aussi nos emplois sur le territoire. Donc peut-être aussi un petit message à se dire, travaillons plus en main dans la main, et notamment sur la notion de calendrier, qui, encore une fois, on ne remet pas en cause le fait qu'il faille aller vite, mais pour prise en compte aussi et que la compétitivité des entreprises soit aussi préservée pendant cette période d'évolution et de changement.
Voilà. Pouvoir évidemment travailler, on va dire, les uns avec les autres. Merci beaucoup à vous pour votre commentaire, Valérie Lebon, vice-présidente de l'AIMCC, également à Laurent Guégan, le président de ADC 3R, et puis Lionel Gossel, le président d'honneur des éco-opérateurs. On a bien compris comment finalement ces sujets-là n'allaient cesser d'évoluer. Bon, pour le moment, le réemploi, c'est encore minime dans tout cet univers-là, mais on est sûr que beaucoup de choses vont bouger. Oui. Merci beaucoup à vous pour votre témoignage. On va marquer une courte pause et on va s'intéresser à la rénovation énergétique dans les territoires avec un zoom ce mois-ci sur la région Centre-Val-de-Loire et les matériaux biosourcés.
Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Le grand dossier du Mondial du Bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.